Gilbert, Sauvage et Europe, c'est la règle de trois de Béatrice Crémer-Cochet. Il faut rendre à Gilbert ce qui lui appartient, sa place. C'est le mari, le compagnon de route, le co-auteur.
Gilbert Cochet, naturaliste, spécialiste du Grand-Duc, de la moule perlière, des rivières et du sauvage.
Depuis l'université de Rennes, où elle l'a rencontré il y a 20 ans, Béatrice Crémer a presque tout partagé avec lui, voyage et ouvrage compris. Ces deux professeurs agrégés, spécialistes de la science et de la terre, sont rapidement partis, non pas en voyage de noces, mais en expédition. Dès la première, les îles Maurice et la Réunion, ils ont vu de leurs yeux ce qu'ils avaient étudié, flore tropicale et faune aquatique. Avec Gilbert, il y eut aussi le Monténégro, les Carpates, l'Australie, la Namibie, l'Antarctique, dans une quête des écosystèmes sauvages les mieux préservés. Béatrice Cochet est membre du conseil d'administration de l'association pour la protection des animaux sauvages et a fondé avec son mari une association pour défendre les forêts sauvages. Le sauvage, et plus précisément la connivence qui peut s'installer avec l'animal, a transformé cette photographe nature, un ressenti qui remonte à l'enfance quand elle prenait plaisir à ouvrir les cages des animaux dans la ferme de ses grands-parents. La vie sauvage, elle a pu aussi l'observer en Europe pendant le confinement. Des canards dans Paris, la faune marine qui se réapproprie Venise. Quelques semaines ont suffi, écrit-elle dans une tribune pour Libération, pour que le sauvage réinvestisse les territoires occupés par l'espèce humaine. L'espoir de la cohabitation de l'homme et du sauvage, même chez nous, est au cœur du livre coécrit avec Gilbert, l'Europe réensauvagée vers un nouveau monde. De l'Atlantique à l'Oural, le continent européen a été profondément marqué par l'occupation humaine, pour ne pas dire détruit.
Si on fait le bilan de tous les parcs nationaux, réserves biologiques intégrales dans lesquelles l'animal est protégé, plus ou moins bien, on arrive à peu près à 1% du territoire français.
Mais Béatrice Cochet parle aujourd'hui d'avenir radieux, de biodiversité complète et de proximité retrouvée, que le sauvage l'entende.
Alors, Béatrice Crémer-Cochet, on a vu dans votre règle de trois que vous dites que le territoire français, il y a 1% justement de cette superficie qui est occupée par un ensauvagement, un réensauvagement pour les animaux. Vous parlez dans votre livre de 50% de réensauvagement pour la planète. Comment c'est possible?
Alors, c'est un biologiste américain qui a beaucoup travaillé sur sur l'érosion de la biodiversité, on dit, et qui pense qu'il faudrait restituer 50% de la planète aux autres formes de vie pour qu'on puisse simplement enrayer cette érosion de la biodiversité. Alors, effectivement, en France, on a, disons, grosso modo 30% de surfaces qui sont dites protégées. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle zone protégée, en fait, c'est un millefeuille dans lequel on met beaucoup de choses. Et il y a des surfaces dites protégées dans lesquelles les activités humaines ont lieu normalement, on prélève, etc. Et il n'y a qu'effectivement 1% de la surface du territoire où on a une libre évolution. C'est-à-dire que c'est le cœur des parcs nationaux, les réserves biologiques intégrales, comme celle des hauts plateaux du Vercors, et dans une moindre mesure, les réserves naturelles nationales, sachant que dans certaines, on peut prélever, chasser, par exemple.
Mmh, Vincent.
Dans votre livre, vous faites part aussi de votre expérience personnelle et de votre passion depuis votre plus jeune âge pour le monde sauvage. D'où vient cette passion et qu'est-ce que vous apporte le monde sauvage? Est-ce que c'est un plaisir esthétique? Est-ce que c'est la connaissance? Qu'est-ce que vous alliez chercher quand vous êtes penché sur ce sujet?
Je crois que on a besoin de ce contact avec le monde sauvage et l'expérience du confinement a été très révélatrice parce que pour tous ceux qui ont été confinés dans un petit appartement avec vue sur le mur du voisin et aucun espace vert, ça a été très très difficile. Alors que ceux qui bénéficiaient d'un jardin ou enfin d'espace plus ou moins sauvage à proximité, ça a été beaucoup plus simple. Et cette expérience-là nous a montré qu'en fait on a besoin d'espace naturel. Et tout le monde s'est émerveillé sur quatre renardeaux au Père Lachaise. Il y en a qui ont vu des chevreuils au fond de leur jardin, enfin des choses qu'on ne voit
pas, une
proximité qu'on n'a pas d'habitude. Oui, tout à fait. Il y a de très belles images là. Et ça montre aussi que notre psychisme a besoin de cette présence, de cette proximité avec la faune sauvage. Si vous regardez par exemple la grotte Chauvet, qui est la plus ancienne grotte ornée de France, mon mari a eu le privilège de visiter la vraie, l'originale, en tant que président du conseil scientifique des Gorges de l'Ardèche. Moi, j'ai visité la restitution, qui est, à ces dires, très très bien faite. Et c'est vrai que ce qui frappe quand on est dans cette grotte, c'est la multitude d'animaux qui sont représentés. Mmh. Alors que quand on sort, on regarde le paysage, qui est un magnifique paysage, mais on a l'impression de voir un décor de théâtre vidé. On se dit, mais ils sont où? Ils sont passés où? Et l'homme préhistorique les avait vus de très près, parce qu'on a des détails dans les expressions des animaux qui montrent que, à l'époque, il n'avait pas de téléobjectif, il n'avait pas de jumelles, et donc forcément, il les a vus de très près. Mmh. On a eu ce côtoiement, cette proximité avec la faune sauvage, et quelque part, c'est inscrit en nous, c'est inscrit dans notre psychisme, et on en a besoin. On en a tous besoin de manière plus ou moins consciente.
Alors, on en a besoin, mais avec vous, Camille, on va voir que cette cohabitation entre l'homme et l'animal, il y a un débat qui a été relancé récemment, c'est celui de l'abattage des espèces nuisibles.
Oui, alors déjà, je vous arrête, Jean-Mathieu. Depuis 2019, on ne dit plus espèce nuisible, on dit espèce susceptible de causer des dégâts. Et c'est important, puisqu'a priori, il n'y a aucune espèce nuisible dans la nature. Elles ont tout un rôle, c'est seulement pour l'homme qu'elles peuvent être nuisibles. Ces espèces sont donc celles qui perturbent les activités agricoles ou qui encore peuvent transporter des maladies. Alors, une liste est établie tous les 3 ans par arrêté ministériel. Il y a la belette, le renard, la fouine, le putois, la corneille ou encore le lapin de Garenne. Et leur population est régulée chaque année par ce qu'on appelle des campagnes d'abattage qui tue des centaines de milliers d'individus de chaque espèce. Des campagnes qui sont de plus en plus critiquées, d'abord par les associations de défense des animaux qui parlent d'un véritable massacre, mais également par les scientifiques qui expliquent que la stratégie même de l'abattage n'est pas si pertinente. D'après un article publié récemment dans la revue Biological Conservation, l'efficacité des campagnes n'est que rarement évaluée et les rares études qui existent montrent qu'elles sont plutôt contre-productives. Exemple avec le blaireau qui est chassé parce qu'il est vecteur de la tuberculose bovine, eh bien plus on tue le blaireau, plus les individus qui restent élargissent leur territoire car ils ne rencontrent plus de concurrents quand ils se déplacent. Résultat, eh bien les campagnes d'abattage participent en fait à la dissémination de la maladie qu'on combattait au départ. Alors Béatrice Crémer-Cochet, est-ce qu'on peut apprendre et comment peut-on apprendre à cohabiter avec ces espèces dites nuisibles pour l'homme ?
Je pense que l'apprentissage de la cohabitation passe obligatoirement par la recherche sur ces espèces et la meilleure connaissance de ces espèces. Moi, par exemple, vous parliez du blaireau. Pendant le confinement, j'avais posé des pièges photos dans mon jardin et j'ai eu l'immense bonheur de voir qu'il y avait des blaireaux. J'habite pas en pleine, enfin, j'habite dans un petit village, mais je suis en plein cœur de village. Et donc, pendant la nuit, j'étais régulièrement visitée par un blaireau, par un hérisson aussi, un renard, des fuines, etc. Et j'ai eu l'immense surprise de constater que le blaireau avait exactement le même comportement que le hérisson. Alors le hérisson, pour la plupart des gens, il est bienvenu dans les jardins, alors que le blaireau, comme vous dites, il est mal perçu par un certain nombre de personnes. Et je pense que c'est justement une méconnaissance par une certaine catégorie de la population qui aboutit à ces comportements de rejet. Si en fait le blaireau cause des dégâts qui posent des problèmes, eh ben, il faut lui parler dans le langage du blaireau. Et donc pour lui parler dans le langage du blaireau de manière à lui faire adopter un comportement différent, il faut connaître le blaireau, savoir ce qui l'intéresse, comment il communique, etc.
Vincent.
Il y a un projet que vous défendez dans votre ouvrage et qui apparaît peut-être utopique, vous allez nous le dire. C'est une espèce d'immense parc naturel européen qui partirait de la cordillère Cantabrique, qui irait jusqu'au Caucase.
Du nord de l'Espagne.
Voilà, du nord de l'Espagne jusqu'à la Russie. C'est un projet sérieux ou c'est simplement un rêve que vous avez ?
C'est une suggestion qu'on lance parce qu'elle nous paraît très intéressante, effectivement. Comme vous venez de le dire, on s'est rendu compte en regardant les cartes qu'il y avait une vraie continuité entre les massifs montagneux. Et actuellement, cette continuité, elle est géographique, mais elle n'est pas biologique. Mmh. Puisque si on prend l'exemple des bouquetins et des isards, par exemple, des chamois et isards, c'est le même groupe, eh bien, on se rend compte que dans chaque massif, vous avez une espèce différente ou une sous-espèce différente. Donc, vous avez un bouquetin dans les Cantabriques, vous en avez un dans les Pyrénées, vous en avez un dans les Alpes, etc. Et ça va comme ça jusqu'au Caucase.
Voilà, et si vous êtes en vacances, vous pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à observer tous ces animaux, car le sauvage existe, il est à côté de chez nous. Merci beaucoup, en tout cas, Béatrice Crémer-Cochet, d'être passée par 28 minutes. Votre livre, écrit avec Gilbert Cochet, Votre mari, l'Europe réensauvagée vers un nouveau monde, est publié dans la collection Monde Sauvage.